France Info.
C'est votre rendez-vous politique tout au long de l'été à 8h30 sur France Info. Bienvenue, Yannick Halimi du Parisien.
Bonjour.
Est à mes côtés. Bonjour. Notre invité ce matin, député La République En Marche de Paris, Stanislas Guérini. Bonjour.
Bonjour.
Député depuis le mois de juin, vous avez découvert l'Assemblée nationale, on y reviendra. Vous avez aussi entendu le Premier ministre Édouard Philippe évoquer dans son discours de politique générale le coût pour l'État des politiques d'aide au logement, notamment trop coûteuses au regard de leur efficacité. Résultat, cette annonce samedi d'une baisse des aides au logement, baisse de 5 euros par mois, notamment pour les APL à partir du 1er octobre. C'est vraiment utile cette mesure d'une baisse de 5 euros par mois ?
Mais ce qui est certain, c'est que la situation financière de l'État, si on veut tenir nos engagements et notamment nos engagements européens, nous oblige à trouver des baisses. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir mettre fin à ces pratiques constantes de sous-budgétisation, parce qu'il y a beaucoup de postes du budget d'État où on vote des budgets, et en réalité, les fonds ne sont pas là.
Ce qui est certain, c'est que ceux qui ont entendu la baisse ont compris que c'était les plus modestes qui allaient devoir rajouter 5 euros.
Pas forcément les plus modestes, effectivement, les APL, ce sont 6,5 millions de personnes qui en bénéficient dans le pays, en moyenne 225 euros par mois, et donc on doit faire des choix qui sont des choix difficiles, qui sont parfois pas des choix qu'on fait de gaieté de cœur, mais de baisser de 5 euros par mois ces APL. Il faut le faire aussi pour pouvoir continuer à assurer les missions des services de l'État. Est-ce qu'il fallait arrêter de financer le plan de formation ? Est-ce qu'il fallait arrêter de financer les places d'hébergement d'urgence ? Est-ce qu'il fallait arrêter
de financer nos opérations extérieures ? Est-ce qu'il faut réformer l'ISF, par exemple, et diminuer l'impôt sur la fortune ?
En l'occurrence, ce n'est pas le sujet là, puisque le plan d'économie, on doit le trouver...
Pour ceux qui sont concernés, c'est le sujet.
On doit le trouver pour 2017. La réforme de l'ISF qu'on va faire, ce n'est pas pour 2017. Donc, c'est pour boucler le budget de 2017, qu'il fallait trouver des économies. Et c'est ce que nous avons fait, c'est l'exercice du pouvoir.
Yannick Halimi.
Pourquoi avoir avancé comme argument de la part du ministre le fait que François Hollande, le gouvernement de François Hollande, avait cette mesure dans les tuyaux, alors que c'est faux, objectivement c'est faux. En revanche, ils en avaient une autre, qui était de conditionner l'APL au fait que les parents payaient ou pas l'ISF, ce qui aurait été peut-être plus audible et plus vrai dans sa teneur.
Moi, je souhaite pas rentrer dans le débat de est-ce que c'est le gouvernement précédent, le gouvernement d'avant.
Mais c'est vous qui l'avez lancé, c'est Monsieur Mézard, le ministre d'Assouline.
Je suis en revanche tout à fait convaincu que un grand nombre de postes budgétaires dans notre qui pour assurer les missions du service de l'État sont sous-budgétisés. C'est extrêmement clair. C'est comme ça
c'est
qu'on
quoi, c'est de l'insincérité, vous pensez
de nos budgets. Mais c'est comme ça que ça se passe depuis des décennies. Nous avons il y a quelque temps réouvert des crédits pour financer l'hébergement d'urgence, pour financer l'accueil des demandeurs d'asile, pour financer aussi les opérations extérieures. Et tout ça, ça nous met systématiquement dans des positions très compliquées, où il faut faire des choix, j'allais dire à la dernière minute, des choix dans l'urgence, pour pouvoir boucler le budget de l'année. Eh bien, c'est à ces pratiques-là qu'il va falloir que l'on mette fin.
Baisse de 5 euros par mois à partir d'octobre, ça fera 60 euros par an pour les bénéficiaires, comme Léa, qu'on a écouté ce matin sur France Info. Écoutez.
5 euros, on va dire que c'est rien, mais si, c'est un repas, voilà, c'est des paquets de pâtes. Et avec une petite fille, 5 euros pour moi, je vous dis, c'est pas rien. Voilà, déjà, la viande, c'est une fois par semaine à peu près. On se prive, c'est clair, on se prive. Et là, ça va être encore pire. J'ai voté au deuxième tour Macron, mais je suis déçue. Les APL, c'est pour des personnes qui ont du mal à payer leur loyer. Donc pourquoi, en fait, ils s'attaquent à la population la plus dans le besoin ?
Voilà, Léa, bénéficiaire des APL, au micro de Mathilde Le Maire. Elle a voté Macron au deuxième tour et elle a l'impression de devoir payer quand d'autres ne le feront pas. Vous lui répondez quoi ?
Mais c'est pas quand d'autres ne le feront pas, mais je ne conteste pas que la situation elle est difficile pour tout le monde. Elle est difficile pour ceux qui ont des bas revenus. Elle est difficile parce que nous nous sommes mis nous-mêmes dans une situation d'impasse budgétaire. Et donc, la politique qu'on veut mener, c'est effectivement à la fois une politique qui est une politique de vérité, où il faut qu'on arrive à répondre à nos engagements européens, à diminuer la dette. Il faut l'assumer parce que c'est comme ça que l'on mettra en place, en diminuant les dépenses de l'État, une politique où on pourra diminuer les impôts et investir dans le pays. Et c'est la clé pour retrouver de la croissance et puis pour pouvoir mener des politiques plus généreuses.
Mais Stanislas Guérignon, on comprend qu'il y ait des contraintes financières et puis une volonté de s'intégrer au discours européen. Il y a aussi, comme le disait Nicolas, votre électorat, dont une partie souhaitait plus de mesures sociales. Qu'est-ce que vous allez faire pour répondre à cette population et à répondre à la fracture sociale pour laquelle vous avez été élu?
On va mettre en œuvre notre projet, tout simplement, qui est un projet qui va bénéficier aux classes populaires, aux classes moyennes. On va, dès 2018, supprimer les cotisations salariales sur le chômage maladie. On va augmenter la prime d'activité. On va augmenter de 100 euros par mois
le minimum vieillesse, notamment sur les retraités. C'est pour ça que la cote de popularité d'Emmanuel Macron baisse. Donc, il ne faut pas non plus...
Il faut resituer les choses dans leur contexte.
Ne prendre qu'une partie de votre politique fiscale.
Mais c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez raison. Il faut présenter les choses dans leur ensemble. Notre politique fiscale, elle vise à favoriser le travail, coûte que coûte. Que dans ce pays, on gagne plus quand on bosse et quand on se remet au boulot. Pour ce faire, c'est pour ça qu'on supprime les cotisations salariales sur chômage maladie. Pour compenser ça, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'on est effectivement dans une situation budgétaire contrainte, nous allons augmenter de 1,7 point la CSG. Pas, d'ailleurs, en exonérant de cette augmentation les 40% des retraites les plus faibles. Et donc, c'est une politique fiscale assumée, pour le travail, en taxant un petit peu plus le capital.
Assumé en pariant sur le fait que le capital soit réinvesti ensuite, parce que là, ce ne sont pas les rentiers qui touchent les APL. Hein.
Ah non, alors vous me parlez à nouveau
de manière générale.
Des APL, effectivement. L'ensemble de ces mesures-là, et je n'ai pas cité la suppression qui va être progressive de la taxe d'habitation, elle va permettre au final aux populations les plus populaires, les classes moyennes et populaires, de bénéficier de notre politique fiscale.
Mais vous pensez que vous êtes audible avec ce discours quand même extrêmement compliqué, encore une fois, auprès de l'opinion publique? Comment vous expliquez la chute de 10% de popularité d'Emmanuel Macron,
vous savez,
également d'ailleurs d'Edouard Philippe?
D'abord, quand on va supprimer la taxe d'habitation, ça ne sera pas compliqué.
Les Français, ça paraît assez audible, effectivement.
En moyenne, ils payent 600 euros de taxe d'habitation par mois. Donc il faut effectivement resituer les choses dans leur contexte. On est en train de parler d'une diminution de 5 euros par mois des APL. Quand on supprime la taxe d'habitation, c'est 600 euros par an. Donc ça, c'est quelque chose qui sera audible. Et par rapport à la popularité, moi je ne suis pas là pour commenter la popularité des uns ou des autres. Il faut au contraire qu'on ne soit pas figé par cela, qu'on ne soit pas interdit dans l'action. Ce qui est au contraire notre talisman pour pouvoir gagner la popularité, pour pouvoir gagner la confiance des Français, c'est de mettre en œuvre le projet pour lequel on a été élu, qui est un projet qui vise à la fois à libérer les énergies et à mieux protéger les Français.
Et on va parler du reste de ce projet après un point sur l'info à 8h40 et avec vous Marie Roarche.
Encore un peu de patience pour les salariés de GMES. Le tribunal de commerce de Poitiers doit rendre sa décision à 18h sur l'offre de reprise de l'équipementier automobile. Un seul repreneur pour le site de la Souterraine, le groupe GMD. Par ailleurs, les salariés se réunissent aujourd'hui pour décider d'éventuelles actions à venir. Pendant ce temps, au Parlement, les deux premières réformes du quinquennat Macron poursuivent leur route. Les sénateurs se penchent à partir d'aujourd'hui sur la réforme du Code du travail par ordonnance. Les députés, eux, examinent le projet de loi sur la moralisation de la vie politique. Les discussions s'annoncent tendues, notamment sur la suppression de la réserve parlementaire. Les anti-vaccins ne lâchent rien. Une association s'apprête à lancer une action de groupe contre 4 laboratoires pharmaceutiques. Information du Parisien ce matin. Ces familles établissent un lien entre vaccination et autisme chez les jeunes enfants. Dans le même temps, le gouvernement s'apprête à rendre obligatoire 11 vaccins contre 3 actuellement pour les enfants. La vigilance de rigueur dans le sud de la France où le vent va souffler fort dans les prochains jours. Le risque incendie est élevé, exceptionnel même dans le Var. La préfecture interdit l'accès à 7 massifs forestiers du département.
France Info. Le député de Paris, Stanislas Guérini, est l'invité de France Info et du 8h30 politique, député de La République En Marche. On parlait d'une baisse de la cote de popularité d'Emmanuel Macron de 10 points. Je ne vais pas vous demander de commenter le chiffre, plutôt peut-être ce qu'il traduit. Après plusieurs jours où l'on a vu les premières hésitations, peut-être du côté du pouvoir, en tout cas des actes et des choix qui ne sont pas manifestement populaires, que ce soit ces décisions sur les APL, mais aussi, je pense, à cette crise avec le général De Villiers. Est-ce que c'est la fin de l'état de grâce?
Vous savez, nous, on n'a jamais considéré qu'il y avait un état de grâce. Pas après l'élection présidentielle, pas après les élections législatives. On a considéré que ce que les Français attendaient, ce sont des résultats et qu'on soit dans l'action. Je le disais, il me semble important que l'on puisse mettre en œuvre notre projet.
Donc pas d'inquiétude.
Et qu'on puisse... Non, il faut surtout pas être interdit par la situation de popularité. Il faut avancer, travailler et aller au bout de nos idées. Parce que notre programme, c'est dans sa cohérence. Et c'est quand on mettra en œuvre l'ensemble du programme. Regardez ce qui se passe pour le marché du travail. On a commencé effectivement par libérer, simplifier un certain nombre de mesures. Mais on va faire la suite maintenant, c'est-à-dire étendre le chômage aux salariés démissionnaires indépendants, refonder la formation professionnelle. Mmh. Et donc quand on ira au bout de cela, c'est à ce moment-là qu'il faudra demander à être jugé d'une certaine manière, parce que c'est cela, c'est cette politique qui portera
quand même,
ses effets.
Vous ne trouvez pas quand même qu'il y a un cafouillage au niveau de l'exécutif, où on voit sur les crédits militaires, tout d'un coup on découvre qu'il y avait une réserve d'1,2 milliard d'euros sur le budget 2017 qui suffisait de débloquer, donc vraiment on a l'impression que c'est une crise pour rien. On se souvient du recadrage fiscal qu'a effectué Emmanuel Macron après le discours de politique générale du Premier ministre. Vous qui avez suivi d'un seul pas Emmanuel Macron, n'êtes pas déçu. Je connais votre réponse, mais enfin quand même, il y a quand même quelques irritations au sein même de la République en marche.
Je vais quand même vous donner ma
réponse.
Oui, je vous en prie. Au contraire, je pense qu'il y a une capacité d'arbitrage qui est extrêmement rapide.
Ah bon.
Donc c'est du courage.
Ce quinquennat. Oui, c'est du courage.
Il y en a qui disent cafouillage, vous dites arbitrage.
Oui, je dis arbitrage rapide. Les quelques débats que vous avez cités, ils n'ont pas duré plus de 2 jours. À chaque fois, il y a eu une direction qui a été fixée dans les différents sujets. On peut les aborder les uns après les autres, mais notre politique fiscale, les choses ont été posées extrêmement clairement, extrêmement rapidement. Donc la ligne est claire pour les années qui viennent sur le sujet que vous citez au niveau des armées. Mais les choses sont extrêmement claires. Nous allons augmenter de manière très nette le budget des armées pour 2018. Ça va être la plus forte augmentation qu'il y a eu depuis 15 ans pour le budget des armées. Donc ce sont des sujets sur lesquels les lignes sont claires. Et moi, il me semble que c'est ça qui est important.
Pas de cafouillage, vous dites, à l'Élysée. Est-ce qu'il y en a dans le fonctionnement du mouvement La République En Marche, qui connaît ses premières dissensions? On a entendu des paroles ou des tweets de députés ces derniers jours. On a des adhérents qui déposent des recours sur les nouveaux statuts du parti.
Et puis le Parisien dévoile cette information. Il y a un recours en référé, effectivement, devant le TGI de... je ne sais plus quelle ville, pardon, contre effectivement le nouveau règlement de la consultation que vous allez effectuer.
Avec en fond un manque de démocratie interne, voilà ce qui est dit en clair.
Bon, il me semble avoir cru voir que le recours qui est déposé, c'est sur un point de
procédure.
Fonctionnement, de procédure, sur les délais de présentation de nos statuts. Il me semble que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ensemble dans ce mouvement. Il y a peut-être quelques dizaines de personnes qui ont déposé ce
devant
recours.
Devant le TGI de Créteil.
Devant le TGI de Créteil, peut-être. Les statuts, ils ont été construits à l'issue d'une consultation très importante. Il y a eu 2500 contributions pour se dire quel doit être l'avenir de notre mouvement. Il y a eu beaucoup de temps qui a été passé à la co-construction de ces statuts. Aujourd'hui, nous avons des statuts qui sont quand même inédits dans la vie politique. Un quart des représentants au sein du Conseil seront issus des adhérents. Ces 25%-là, il faut les comparer à 0% dans les autres formations politiques. Il y a une liberté d'action qui sera donnée aux comités locaux. Il y a des budgets participatifs pour les comités locaux. Je pense au contraire que nos statuts, ils sont le signe d'un mouvement du 21e siècle qui est tourné vers la société française.
Dans les comités locaux, certains ont l'impression de ne plus avoir droit et voix au chapitre depuis les législatives. C'est le cas de Tiphaine Beaulieu qui a monté un mouvement Marcheurs en colère. On l'écoute.
Des adjoints ou des élus de mairie qui ont essayé de s'exprimer et qui ont été menacés. Des représentants de La République En Marche qui ont essayé de parler, qui ont été exclus de boucles de communication Telegram. Des gens aussi qui ont essayé de s'exprimer, qui du jour au lendemain ne pouvaient plus accéder à leur espace personnel En Marche.
C'est quoi? C'est des exemples anecdotiques ou c'est révélateur de certains dysfonctionnements et de résultats qui, pour l'instant, ne sont pas encore à la hauteur des attentes de tous les gens qui se sont lancés dans ce mouvement politique il y a un peu plus d'un an?
Bon, effectivement, je pense qu'on regarde plus souvent les trains qui arrivent en retard que ceux qui arrivent à l'heure et on fait plus de bruit quand on n'est pas d'accord, d'une certaine manière, que quand on a envie de participer à ce mouvement collectif, et ce qui est le cas pour l'immense majorité des adhérents En Marche. Moi, vous savez, je suis un des fondateurs de ce mouvement. Mm-hmm. Croyez-moi, ça me tient à cœur, ce mouvement-là. Je passe beaucoup de temps avec les adhérents du mouvement et il y a un état d'esprit qui n'est pas du tout celui qui est décrit dans le reportage, qui est une adhésion à ce qu'on a envie de faire ensemble. Parce qu'au fond, c'est ça qui compte. Les statuts, ils n'ont jamais protégé un parti politique, ni de sa disparition, et ils ne les ont jamais fait réussir. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. Et au contraire, je sens beaucoup d'enthousiasme par rapport aux missions qu'on s'est données dans ce mouvement politique, de remettre en mouvement la société française.
Mais au sein même, là j'en arrive à votre fonction de député, au sein même du groupe parlementaire, il y a aussi des expressions qui émanent de députés qui sont irrités par la discipline justement imposée. Vous avez beau dire les règlements, c'est une chose, on s'en fiche, c'est le fond. Il y a quand même Richard Ferrand qui impose, qui est donc le président du groupe, bien sûr, ancien ministre, qui impose une discipline. De faire, c'est peut-être un bien grand mot, mais enfin assez rigide, et il y a des députés qui s'en inquiètent, et d'autres qui ont baissé les bras, et en gros qui dorment en commission, parce qu'ils savent de toute façon que leur voix ne sera pas entendue. Alors, c'est un peu gênant pour ce début de législature, vous croyez, et même de président, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? De quinquennat, voilà.
Non, je ne pense pas, je pense que c'est un petit peu caricatural de présenter les choses comme ça. Aucun député ne dort en commission. Moi, j'assume le fait qu'il faut qu'il y ait à la fois de la liberté de parole entre nous, quand nous avons des réunions de groupe, et puis une discipline collective quand nous arrêtons des décisions. On a suffisamment fait le reproche dans le quinquennat précédent d'avoir les frondeurs, d'avoir au fond une absence de ligne, qu'on nous reproche aujourd'hui le fait d'être bien alignés sur un projet que nous avons défendu pendant l'élection présidentielle, pendant l'élection législative.
Mais de là, alors interdire de déposer des amendements
pas. Ah non, c'est pas du tout
c'est
ça
faux,
qui est
ça
interdit, mais c'est totalement faux. On n'a aucune interdiction de déposer.
Tout n'a pas été bien compris par vos députés,
mais
alors.
C'est l'intérêt de venir effectivement présenter les choses telles qu'elles sont. On a tout à fait le droit d'abord de présenter des amendements, de voter des amendements qui sont présentés par l'opposition, et ça a été le cas pour plusieurs dizaines d'amendements, évidemment.
Mais pas de les co-signer et de les co-rédiger,
oui,
ça c'est interdit.
C'est une chose qui est différente, vous en comprendrez la nuance. On a tout à fait le droit de voter les amendements de l'opposition. Encore une fois, on l'a fait par dizaines de fois depuis le début de ce mandat, donc il faut pas laisser une idée fausse s'installer. Mais effectivement, on pense que quand une idée est intéressante, soit on la vote, soit on la fait nôtre et on rédige nous-mêmes un amendement pour introduire et améliorer les projets de loi. C'est tout aussi simple que ça.
Un tout dernier mot, Stanislas Guérini. Est-ce que la loi sur la moralisation de la vie publique, pour la résumer, mais ce n'est pas le terme exact, est à la hauteur de vos attentes?
Oui, parce que c'est une loi pour la confiance dans la vie politique. C'était essentiel de démarrer par là, de faire des vraies avancées dans notre vie démocratique.
Elle correspond à ce que vous vouliez.
Oui, elle correspond à ce qu'on a présenté pendant la campagne, à la fois sur la vie des parlementaires à l'Assemblée. Ils devront avoir un casier judiciaire vierge, ils ne pourront plus exercer d'activité de conseil, et elle va donc faire progresser la confiance dans la vie politique, et c'est ça qui est essentiel.
Et ce sera le mot de la fin. Stanislas Guérini, député La République En Marche de Paris, invité de France Info. Merci pour
Merci
votre venue, et un nouveau point sur l'info à 8h50, c'est Marie Rouarche.